La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde. Vous êtes sur Radio Escapade. C'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Nona Mayer, qui est une chercheuse en sciences politiques au Centre d'études européennes de Sciences Po, qui est aussi directrice de recherche émérite au CNRS et qui est membre de la Commission nationale consultatif des droits de l'homme, la CNCDH, et qui travaille particulièrement sur l'antisémitisme. Eh bien, Nona Mayer, bonjour.
Bonjour.
Alors, donc, on vous a invité donc, pour parler précisément de l'antisémitisme, puisque depuis les tragiques événements du 7 octobre en Israël, il y a un conflit au Proche-Orient qui a... de quelque part un petit lien avec ce qui se passe en France par rapport à l'antisémitisme, même si c'est quand même une vieille question. Donc on va un peu se spécialiser sur la question de l'antisémitisme, mais on va parler aussi de son histoire au temps long et aussi de vos travaux que vous faites dans le cadre de la CNCDH par rapport à la ville de Sarcelles et à Paris 19e. Mais... Déjà, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être parler par rapport à l'actualité, est-ce que par rapport à ce qui se passe depuis donc quelques mois, qu'est-ce que ça a à voir avec l'antisémitisme sur la longue durée? Est-ce qu'il y a une spécificité ou pas? Ou est-ce que c'est des tendances générales ou pas? Est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que ça a à voir la période actuelle dans l'histoire de l'antisémitisme en France depuis déjà plusieurs temps?
Ok, ben je vais essayer de mettre un peu en perspective. Et je pense qu'il faut commencer par distinguer les actes antisémites, c'est-à-dire dirigés contre des personnes juives ou que l'on pense comme telles, et les opinions antisémites, hein, donc l'hostilité contre les juifs ou les personnes que l'on croit telles. Alors, effectivement, depuis le 7 octobre, on assiste à une hausse sans précédent, spectaculaire pour une période aussi courte, des actes et propos antisémites qui sont suffisamment graves pour avoir donné lieu à un signalement à la police ou à la gendarmerie et d'avoir fait le dépôt d'une plainte. Depuis le 7 octobre, selon le ministre de l'Intérieur, on en est à 1518 actes ou propos antisémites, alors que dans une année record qui était 2004, on était à 974. Pour une si courte période, octobre-novembre, c'est vraiment beaucoup, octobre-novembre à décembre, enfin 2 mois. Et simplement, ces actes, ils avaient quasiment disparu en France dans les années 90, après la profanation du cimetière juif de Carpentras, il y avait une période d'accalmie. Et puis, à partir de la seconde intifada, c'est-à-dire la révolte des Palestiniens en l'an 2000, là, on a vu une première montée des actes. Et depuis, à chaque étape du conflit israélo-palestinien, opération plan durci, opération bordure protectrice, on les voit monter, mais jamais autant que cette fois-ci. Donc au niveau des actes, il y a incontestablement une recrudescence des actes antisémites, et il y en a probablement plus, parce que toutes les victimes ne vont pas porter plainte.
Et ça déjà par rapport à ce qui se passe, mais donc... Il faut savoir aussi que bon, que l'antisémitisme, il n'est pas arrivé que depuis cette période-là, qu'il a une longue histoire, particulièrement en France. Bon, depuis au moins les graves événements suite à l'affaire Dreyfus et surtout la fameuse année 1898 où il y avait Pierre Berenboum qui avait fait un livre là-dessus où il y avait vraiment des grands pogroms et une violence antisémite avec des centaines de milliers de personnes vraiment qui criaient des morts aux juifs et qui venaient essentiellement des secteurs de l'extrême droite nationaliste, voire d'avis antisémitisme d'ordre un peu catholique. Et c'était pendant longtemps, l'antisémitisme était un peu... classé là-bas, mais que il peut y avoir des moments différents où plusieurs ordres d'antisémitisme qui peuvent se rejoindre avec avec d'autres formes d'antisémitisme qu'on peut avoir par rapport à des, par exemple, périodes de troubles où il y a des pensées un peu conspirationnistes qui peuvent se développer, ou aussi que ça peut rejoindre là par rapport à certaines formes. Même si le mot est délicat et ambivalent d'antisionisme, ça ne veut pas dire petit grand-chose, donc il faut faire très attention au terme, mais que c'est une histoire-là, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent exister, même si à la base c'était essentiellement de l'extrême droite, il y a beaucoup d'autres voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent jouer, donc peut-être si pour nos auditeurs, auditrices qui ne seraient pas au courant, est-ce que vous pourrez peut-être faire un peu
Oui,
un
vous
panorama?
avez tout à fait raison. L'antisémitisme, alors là, on a glissé des actes aux préjugés, c'est-à-dire aux idées reçues qu'on a dans la tête concernant les Juifs. Et là, effectivement, la spécificité de l'antisémitisme, c'est qu'il a une très très longue histoire et qu'on a une espèce de réservoir inépuisable d'argumentaires anti-juifs. Et le plus vieux, sans doute, bien avant l'affaire Dreyfus, c'est l'antisémitisme à base religieuse, c'est-à-dire à la base dans la religion chrétienne, l'idée que ce sont les Juifs qui sont le peuple déicide, c'est eux qui ont tué Jésus. Et jusqu'au Concile Vatican II dans les années 60, ça va être très présent. Bon, depuis, tout ça a été un peu effacé, l'histoire a été revisitée. Mais ça, c'est un premier courant antisémite. Et puis ensuite, pendant tout le Moyen-Âge, on va accuser les Juifs d'être des usuriers, on va y voir des empoisonneurs de puits, on va y voir tout un tas de mythes autour. Et au 19e, on va avoir l'assimilation des Juifs au capitalisme, et notamment à gauche, avec l'idée que les Juifs, c'est un raccourci commode pour désigner la haute banque, les profiteurs, les capitalistes. Et puis il va y avoir les théories raciales, l'état de la science au 19e, il y a des races supérieures, des races inférieures, et les Juifs seraient une race inférieure. Et c'est exactement ça que les nazis ont mis en pratique, avec une idéologie de la race supérieure aryenne par rapport à la race inférieure qui va conduire à l'Holocauste et à l'extermination des Juifs. Donc ça, c'est la préhistoire. Et ensuite, depuis la guerre, effectivement, la création de l'État d'Israël va changer l'image des Juifs. Avant, on les accusait d'être apatrides. Là, on va les accuser d'avoir une double allégeance, des gens sur qui on ne peut pas compter pour Israël compte plus que la France. D'autres vont dire qu'ils ont inventé la Shoah, le massacre, qu'il va y avoir des négationnistes, ou qu'ils exagèrent tout cela à dessein. Et puis, effectivement, vous avez en 1967 la guerre des six jours et l'occupation des territoires. Et à partir de là, on va assister, c'est comme si un peu le petit État entouré de ses voisins arabes, l'image s'était inversée, David est devenu Goliath à partir de l'occupation des territoires. Là, il va y avoir des très fortes critiques de l'occupation, mais qui peuvent glisser vers une critique du sionisme, de l'État d'Israël, qui peut très vite essentialiser Israël, accuser les Juifs de France d'être des soutiens inconditionnels d'Israël, faire du sionisme une idéologie délétère, alors que c'est au départ une idéologie nationale pour donner une terre à un peuple. Et puis tout cela se développe au fur et à mesure. Tout cela pour vous dire que le réservoir, il est un peu inépuisable. Et pourtant, mais j'aurais peut-être une note optimiste là, quand je parle non pas des actes, mais des préjugés, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dont fait depuis 1990 un baromètre annuel de toutes les formes de racisme et de rejet. Et ce qu'on voit, c'est que bon an, mal an, l'acceptation de toutes les minorités, y compris la minorité juive, l'acceptation progresse. Aujourd'hui, les Juifs sont, même de tous les groupes, de toutes les minorités religieuses, sans doute la mieux acceptée en France, à la différence des musulmans qui sont une des plus rejetées. Donc tout cela évolue à travers le temps. Mais c'est vrai que le fond est là et que dans un contexte comme celui du Covid, on a vu ressurgir les mythes des juifs responsables du Covid, comme celui des empoisonneurs de puits ou des juifs propagateurs de la peste. Donc il faut faire très attention, ça ne disparaît jamais.
Et vous parlez de votre baromètre de la CNCDH, ça nous laisse l'occasion de voir bifurquer, c'est peut-être ça, peut-être pas à voir, mais c'est assez intéressant. C'est, vous avez fait, vous travaillez aussi dans ce cadre-là avec un chercheur qui s'appelle aussi Vincent Tibéri qui travaille là-dessus, que c'est un travail très intéressant. Et il y a un article du Monde assez récent, hein, c'était dans Le Monde du 18 novembre, et il fait état de vos travaux par rapport à, au ressentiment, c'est peut-être électoral, mais c'est aussi au-delà de l'électoral, sur comment, entre des groupes, on va dire, dits entre guillemets ethniques et autres, comment, suivant qu'ils se croisent ou qu'ils ne se croisent pas, qu'ils vivent ensemble ou qu'ils ne vivent pas ensemble, qu'on a l'opinion d'eux, comment l'opinion d'un groupe dit ethnique par rapport à un autre, comment ça joue par rapport à certaines théories des sciences sociales, par rapport aux gens avec qui on est en contact ou qu'on n'est pas en contact. Et c'était assez intéressant par rapport à ces études-là. Donc, je pense que nos auditeurs, auditrices n'ont pas lu cet article, mais il est très intéressant. Donc, si vous pourrez peut-être faire état de quoi ça parle par rapport à le ressenti d'une population par rapport à des groupes perçus comme minoritaires, tels que les Juifs, ou les Arabes, ou les Noirs, ou autres, dans une société où le groupe français national est majoritaire. Comment ça se passe, comment ça évolue par rapport aux projections qu'on a de l'un et de l'autre.
Absolument. Bah, écoutez, je suis contente que vous évoquiez Vincent Tibéri, parce que ce travail qu'on fait pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, on a une équipe, de chercheurs. Et il y a Vincent Tibéri qui est même lui qui a inventé cet indicateur synthétique d'acceptation de l'autre, de tolérance des minorités, qui s'appelle l'ILT, indicateur longitudinal de tolérance. Donc je rends hommage à son travail. Et puis dans l'équipe, il y a aussi Yuma Ondo, Tommaso Vitale, et puis jusqu'à peu de temps, parce qu'il nous a quittés l'an dernier, il y avait Guy Michelard. Donc j'insiste sur le fait qu'on fait un travail en équipe, parce qu'on travaille toujours mieux à plusieurs. Et avec Vincent, justement, quand on présente les résultats de cet indice longitudinal de tolérance, ou quand on présente les résultats chaque année des enquêtes de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il y en a qui nous disent « Oui, mais vous savez, il y a peut-être aussi du racisme entre minorités, hein, il n'y a pas que la population majoritaire qui s'en prend à ces minorités, peut-être qu'il faudrait regarder d'un peu plus près. » Puis on s'est dit, au fond, peut-être qu'il faut aller au-delà des sondages, qui sont très intéressants, qui nous permettent d'avoir l'idée des opinions auprès d'un échantillon national représentatif de la population adulte résidant en France métropolitaine, mais peut-être qu'il faut aller voir sur le terrain, au jour le jour, comment coexistent les personnes qui appartiennent soit à la majorité, soit à des minorités ethniques ou religieuses. Et c'est avec Vincent qu'on a travaillé. On a travaillé d'une part à Sarcelles, qui est une ville dans le Val d'Oise qui est multiculturelle par excellence, où il y a quelques 120 nationalités qui se côtoient et une bonne vingtaine de religions. Et puis ensuite, on a travaillé dans le 19e arrondissement de Paris, qui est aussi, même peut-être, c'est un peu moins qu'à Sarcelles, qui est aussi un arrondissement très multiculturel. Et là, on a essayé de travailler sur la manière dont les minorités se voient entre elles et comment la majorité voit les minorités et comment les minorités voient la majorité. Et là, j'en arrive à ce que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire les théories qui s'affrontent. Il y en a qui disent, enfin, parmi les recherches, hein, sur ce qu'on appelle les relations interculturelles ou les relations intergroupes, il y en a qui disent plus une société est diverse, plus une communauté, une commune est diverse, plus elle est multiculturelle, plus il y a de contacts entre personnes appartenant à des groupes différents, et bien plus ça se passe bien. Ça, c'est la version positive, c'est la théorie du contact. Elle a été forgée par un psychologue américain aux États-Unis dans les années 50, Gordon Allport, et c'est sur la base de ses travaux qu'ils ont fait la lutte contre la ségrégation scolaire aux États-Unis, avec l'idée qu'il fallait mélanger les élèves noirs et les élèves blancs, parce que comme ça, on ferait baisser l'intolérance. Donc on a essayé de faire ça, et l'autre théorie, elle est, elle, pessimiste. Elle dit, à partir du moment où il y a des groupes, où on vit avec d'autres groupes, il peut y avoir un sentiment de menace. Soit un sentiment de réaliste, qu'on appelle la théorie réaliste de la menace, c'est-à-dire ces gens-là, ils vont prendre les boulots, prendre les emplois, ils ont accès aux ressources. Donc il y a une théorie de la compétition. Ça, c'est donc la théorie négative des relations intergroupes. Et puis d'autres qui disent, oh, même s'ils ne viennent pas prendre nos emplois ou prendre des ressources, c'est une atteinte à notre culture. C'est ce qu'on appelle la menace symbolique. Donc voilà les hypothèses avec lesquelles on partait au départ. Et on a fait un sondage, mais localisé, auprès d'un échantillon représentatif de la population résidant à Sarcelles. Je vais commencer par là. Et au lieu de leur poser des questions vagues sur les préjugés, on leur a demandé avec qui ils sortaient, qui ils voyaient, est-ce qu'ils allaient dîner chez quelqu'un d'une autre religion qu'est-ce qui était, comment ils se définissaient par leur classe sociale, leur religion, où est-ce qu'ils voulaient être enterrés. On a essayé de voir où est-ce qu'ils allaient faire leurs courses. On a essayé de concrétiser un petit peu les relations au jour le jour. Et on s'est aperçu à Sarcelles, qui est une ville où il y a à la fois un nombre élevé de personnes de confession juive, notamment dans le quartier qui s'appelle en haut du grand ensemble, qui s'appelle la Petite Jérusalem, et puis des immigrés venus notamment du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Et on a essayé de voir comment se passaient les relations. Et on s'est aperçu que les relations quotidiennes, au jour le jour, étaient beaucoup plus positives qu'on ne pouvait le croire. Donc on était plutôt dans la théorie du contact positif que dans la théorie de la menace. Même s'il y avait un vif sentiment d'insécurité dans la population juive, mais qui est lié aussi au sentiment que, même si ça se passe pas à Sarcelles, et ça s'est passé à Sarcelles, il y a eu des émeutes l'année 2014, mais depuis le calme est revenu, mais en tout cas l'idée qu'en France aujourd'hui, être juif c'est difficile, parce qu'on est attaqué, parce que les juifs français sont attaqués comme s'ils étaient responsables de la politique menée par l'État israélien dans les territoires. Et pourtant, malgré ce sentiment de peur, la quasi-totalité d'entre eux, des juifs interrogés, veulent rester à Sarcelles, voient des gens d'autres nationalités, d'autres religions, d'autres cultures, ne se définissent pas uniquement par la religion. L'identité, c'est complexe. Il y a plein de choses qui jouent en ligne de compte et la classe sociale joue aussi. Et on s'est aperçu que dans cette ville, on a fait des tas d'expérimentations, des questions pour essayer de repérer le niveau d'antisémitisme. Eh bien, l'antisémitisme restait un tabou. On a fait une expérience, je ne sais pas si vous allez me laisser continuer ou si je parle trop longtemps. Il y avait une expérience, en fait, des expériences dans les questions de sondage où on raconte des petites histoires. Et on ne raconte pas exactement la même petite histoire à toutes les parties de l'échantillon. Par exemple, on coupe l'échantillon en trois et là, il y avait une question sur un élève à l'école a distribué des caricatures. Et il a été renvoyé. Dans le premier cas, c'est des caricatures antisémites. Dans le second cas, c'est des caricatures antichrétiennes. Et dans le troisième cas, c'est des caricatures anti-musulmanes. Et donc chacun, dans l'échantillon, ne se voit poser qu'un type de caricature pour ne pas être influencé par les autres types de caricatures. Et à votre avis, quel est le type de caricature qui a été considéré, là c'est une enquête qu'on a faite en 2019, là où est-ce que c'était le plus justifié d'exclure l'élève, c'était dans le cas des caricatures antisémites. Les trois quarts de l'échantillon trouvaient que c'était beaucoup plus élevé le niveau de réprobation que quand on proposait des caricatures antichrétiennes, des caricatures antimusulmanes. Et les juifs et les musulmans étaient d'accord pour trouver que c'était vraiment plus grave que le reste. Autrement dit, dans cette ville qui a été marquée par les émeutes antisémites de 2014, on a détruit des commerces parce qu'ils étaient juifs. On s'est approché en criant de la synagogue. Eh bien, dans ce quartier, en 2019, l'antisémitisme reste un tabou. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait, mais qui nous montre que dans la vie quotidienne, les relations peuvent être plus apaisées qu'on ne le dirait en général. Et j'ai fait pareil, on a fait pareil tous les deux dans le 19e, où on trouve exactement la même chose, où on a posé la même question. Et où on a en plus posé des questions sur la communauté de destin entre juifs et musulmans dans le 19e. Et là, on trouve, selon la manière dont la question est posée, entre les deux tiers et les trois quarts, qui pensent que juifs et musulmans ont un héritage culturel commun et pensent dans quasiment les mêmes proportions qu'ils devraient s'unir pour lutter contre les préjugés à leur égard. Donc tout cela pour apporter une note un peu positive et un peu plus concrète à ce que peuvent être les relations entre minorités au jour le jour et entre la majorité et ses minorités.
Eh bien, on va faire la première pause musicale avant d'aborder d'autres questions. Stop. Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. On vient d'écouter la chanteuse Anne Peebles et le titre du morceau, c'est I feel like breaking up somebody's home tonight. On poursuit donc notre entretien avec Nona Meyer, donc par rapport à la question de l'antisémitisme. Et on va du coup un peu parler de des débats un peu d'actualité, mais pas que d'actualité, un peu aussi de des histoires un peu au moins des 50 dernières années sur l'échiquier politique. Parce qu'il y a eu un événement qui s'est quand même passé, c'était le dimanche 12 novembre, il y avait une manifestation contre l'antisémitisme, où pour la première fois, le parti d'extrême droite, à savoir le Rassemblement National, a participé, mais aussi quelque part, n'a pas, peut-être pas été invité, mais en tout cas n'a pas été désinvité à participer à une manifestation contre l'antisémitisme, ce qui jure un peu avec, avec le passé. Et ce qui est justement, c'était quelques jours avant, le président lui-même du Front National, Jordan Bardella, niait carrément l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, le fondateur, alors que Jean-Marie Le Pen avait été condamné par la justice pour antisémitisme. Et quand on connaît l'histoire du Rassemblement National, bon, c'est vraiment un peu fort de café, pourrait-on dire. Et ça nous renvoie à un article que vous avez fait dans le très bon livre La mémoire collective en question. On avait reçu Sarah Kinzburger l'année précédente parce qu'elle avait dirigé ce livre très intéressant. Mais vous avez fait un article là-dedans qui s'appelle « Le RN est-il amnésique ?» Et du coup, c'était intéressant justement par rapport à l'antisémitisme, mais aussi par rapport à votre baromètre de la CNCDH, par rapport à la question des Roms, de l'esclavage, enfin voilà, et tout ça. Donc peut-être si vous pourriez nous parler de par rapport à ça, qu'est-ce que vous disiez déjà dans cet article par rapport à la volonté du RN de faire oublier l'histoire antisémite du parti, qui a été confondée quand même en 1972 par des gens qui viennent d'ordre nouveau, qui sont vraiment genre la plus grande extrême droite, dont François Burga, qui est le propagateur du négationnisme en France. Hein, ça a quand même une histoire, tout ça.
Absolument. J'ai fait un peu du négationnisme, Jordan Bardella, quand il nie l'antisémitisme du père, parce qu'il était avéré. C'est la première fois, c'est en 1984, quand il sort sa phrase sur les chambres à gaz, point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est un tollé, il va le répéter à plusieurs reprises, y compris au moment où sa fille va finalement l'exclure du parti. Il avait dans Rivarol, un journal d'extrême droite, nationaliste, il avait repris ses propos, et il avait aussi défendu l'occupation, la collaboration de Maréchal Pétain. Donc effectivement, il y a une longue histoire au Front National. Au départ, il va rassembler toutes les composantes de l'extrême droite française, y compris celles qui sont nostalgiques de la collaboration de Vichy, des négationnistes. Donc tout ça, au moment où le parti se crée, est très présent, on ne peut pas le nier. Le père lui-même a été condamné à plusieurs reprises. Je dirais que sa fille, c'est un peu différent. Elle s'est souvent fâchée avec le père. Avant, une fois, elle a boudé le Bureau national pendant des mois, le jour où il avait encore sorti une saillie antisémite. Donc, elle, ce n'est pas son problème. Elle s'en prend à l'islamisme radical, et parfois, le raccourci, c'est les musulmans dans son parti. Et elle, dès 2011, dès qu'elle reprend le parti, elle va essayer de poser une ligne rouge et dire « Non, nous n'avons rien contre les Juifs ». Elle va redire à plusieurs reprises que l'Holocauste, la Shoah, l'extermination de 6 millions de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale est le summum de la barbarie, qu'elle veut se désolidariser de cet héritage, et elle va même essayer de convaincre la minorité juive de voter pour elle, et avec un certain succès, en disant « Loin de vous attaquer, nous sommes votre rempart contre l'islamisme radical ». Et juste un chiffre. Son père, Jean-Marie Le Pen, en 2002, quand on avait un regroupement d'échantillons pour avoir suffisamment de personnes se déclarant de religion juive, en 2002, on avait moins de 4% des personnes se déclarant juives qui disaient avoir voté pour Jean-Marie Le Pen. Quand sa fille arrive au pouvoir, à la tête du parti, en 2012, cette proportion est multipliée par 3. On arrive à 13,5. Donc, pour elle, c'est symboliquement quelque chose de très important de dire, nous, antisémites, regardez, il y a des juifs qui votent avec nous parce qu'ils ont compris que le danger numéro un, c'est l'islamisme radical. Donc, on ne peut pas mettre exactement sur le même plan la fille et le père, même s'il reste quand même deux ambiguïtés au niveau de Marine Le Pen. Un, dans son programme, figure toujours le fait d'abolir la loi Guesso, qui créait le délit de négationnisme, de nier l'existence des chambres à gaz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et par ailleurs, elle n'a toujours pas reconnu la responsabilité de l'État français pour la rafle du Vel'd'Hiv, par exemple, même si elle s'est associée à l'hommage aux victimes à plusieurs reprises. Donc elle est contre, et ça m'amène à votre deuxième question, elle est contre la repentance. Elle considère que la France n'a pas eu s'excuser et que ce n'était pas la France. Et donc nous, enfin, Marine Le Pen, elle est sur cette ligne, ce n'est pas les Juifs, elle se propose d'être le bouclier des Juifs de France, mais quand on regarde les sympathisants et les électeurs et les électrices de Marine Le Pen, ils sont tout aussi antisémites qu'avant. Hein, donc ce qui se passe au niveau de la direction du parti est une chose, en tout cas de Marine Le Pen, mais en tout cas, au niveau des électeurs et des sympathisants, dans toutes nos enquêtes, ils ont un niveau d'antisémitisme déclaré très nettement supérieur à la moyenne, qui bat des records. Donc, on ne change pas comme ça un parti et son histoire. Alors, effectivement, pour le livre de Sarah Gainsbourger, je vais retravailler sur des questions de mémoire. On a plusieurs questions sur la mémoire du génocide des Juifs, la mémoire du génocide des Roms et des Tziganes, et une question aussi sur le souvenir de la traite et de l'esclavage. Et on voulait voir comment se positionnait ce parti, le Rassemblement National, le Front National, Rassemblement National. Et la question était toute simple, c'était, avez-vous le sentiment qu'on parle trop, pas assez, ou juste ce qu'il faut? Et c'était de l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était celui des Roms. Et c'était une question sur le passé, la traite, le passé colonial de la France et la traite. Donc je vous retrouve exactement comme on avait posé la question. Et là, on voit au niveau du Rassemblement National, il y a des gens qui se déclarent proches de ce parti, on voit qu'ils ont plus tendance que la moyenne à considérer qu'on parle trop, tant du génocide juif que du génocide rome, que de la traite et de l'esclavage, et c'est surtout au niveau de la traite et de l'esclavage, parce que sinon le niveau reste assez bas. Donc, simplement, ils ne sont pas les seuls. On voit qu'il y a un clivage gauche-droite très clair, que l'idée qu'on parle trop de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, on le trouve aussi chez les électeurs de Dupont-Aignan, à ce moment-là, et on le trouve quand il s'agit de la traite et de la traite négrière et de l'esclavage, on le trouve à un niveau très élevé chez les sympathisants des Républicains. Donc là, on a un clivage droite-gauche. Mais, pour ce qui est du génocide des Juifs, on voit qu'il y a une remontée à l'extrême-gauche, chez les insoumis, les proches des insoumis. On n'est pas au même niveau qu'à l'extrême-droite, mais ça remonte à 23% qui considèrent qu'on parle trop de l'extermination des Juifs par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que la moyenne est aux alentours de 16. Donc tout ça pour vous montrer la complexité de ce rapport à l'histoire et à la mémoire. Mais globalement, c'est quand même du côté de l'extrême droite qu'il y a le plus ce sentiment qu'on parle trop de ces choses-là.
Et il y avait pas mal de gens par rapport à tous ces débats de la participation donc du Rassemblement National à cette marche contre l'antisémitisme, il y avait plusieurs débats et beaucoup de gens qui ont rappelé, à tort ou à raison, on verra, mais que même si dans le discours, enfin, même le Rassemblement national, voire même Marine Le Pen, ne plus de pas de discours antisémite au sens propre du terme, elle utilise ce qu'on appelle des tropes. Donc des un peu des images, il y a des gens qui parlent de langage codé, sur le cosmopolitisme, le mondialisme, la finance internationale, enfin, etc. Toutes ces choses-là, avec des personnes qui sont un peu accusées, donc George Soros qui est manqué, mais
Oui.
qui est juif, enfin Jacques Attali, enfin bon, avec des figures qui peuvent être aussi un peu identifiées, et c'est pas mal avec ce langage un peu de trope hein, qui est antisémite, qui pas que le Front National, on le verra peut-être ultérieurement avec un tribunal intéressant de Pierre Birenbaum a sorti certaines déclarations qui viennent du côté de ces Jean-Luc Mélenchon qui utilise aussi ces tropes-là, mais que voilà que c'est assez utilisé, que c'est pas un discours affirmé, mais que il y a comme un sous-texte, ça apparaît dans un sous-texte et que c'est un peu plus voilà, c'est ça apparaît quand même, même si c'est pas explicite. Je sais pas ce que vous en pensez.
Tout à fait, mais je dirais même que ça peut être même assez explicite. C'est-à-dire, dans ce tableau que j'ai fait, qui était plutôt positif du recul des préjugés antisémites les plus flagrants, il y en a deux qui sont toujours là, c'est l'idée que les Juifs ont du pouvoir. Et ça, c'est la version atténuée du protocole des sages de Sion, c'est-à-dire un faux fabriqué par la police du Tsar, mais qui annonçait qu'il y avait un complot mondial entre les Juifs et les francs-maçons pour dominer le monde. C'est le mythe complotiste par excellence. Et il revient périodiquement. Et on le trouve pas simplement à droite et à l'extrême droite, on peut le trouver aussi à gauche, sous des formes diverses. Il y a quelque chose dans l'imaginaire qui est cet imaginaire complotiste des Juifs. Et on l'a vu ressurgir en force dans les manifestations contre le pass sanitaire et contre le vaccin, avec l'idée, on retrouvait des slogans des années 30, c'est-à-dire que c'était les Juifs qui, quelque part, étaient responsables en pointant les ministres juifs avec l'idée d'une responsabilité des Juifs. Donc c'est quelque chose, c'est plus qu'un trope. Il y a quand même, et on le voit très clairement même, quand on analyse les réseaux sociaux, on a fait faire une analyse par le Media Lab de Sciences Po, il a travaillé, eux, ils ont les moyens, ils peuvent travailler sur des millions de posts sur la chaîne YouTube, les commentaires qui sont postés, et ils ont trouvé des traces de cet imaginaire complotiste qui est très net et qui a connu une deuxième vigueur au moment du Covid, avec à la fois associant d'ailleurs au complot les Chinois. Enfin, il y a l'idée que ces visions conspirationnistes de l'histoire, ben les boucs émissaires en sont très souvent les Juifs. C'est quelque chose qui revient périodiquement, c'est un peu la matrice complotiste. Donc ça, c'est important à avoir en tête, ça nuance un peu le côté positif de ce recul des préjugés. Et il y a une chose, oui, enfin, je reviendrai après ça après. Sinon, la deuxième question, c'est la fameuse manifestation contre l'antisémitisme. Moi, je pense qu'il fallait y aller, j'y suis allée d'ailleurs, même si le Rassemblement national était là, ça fait manifestement partie de cette stratégie de normalisation du Rassemblement national pour affirmer hautement et clairement qu'il n'est pas contre les Juifs. Ça lui permettait surtout d'utiliser Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis comme un repoussoir. Hein, je veux dire, c'est une stratégie qu'ils ont mise au point depuis les dernières élections législatives. Ils utilisent les Insoumis comme repoussoir et le fait que Jean-Luc Mélenchon n'est pas tenue à défiler, elle le stigmatise, elle instrumentalise d'une certaine manière cette marche contre l'antisémitisme.
Et bah ça,
Sinon,
allez,
allez-y.
non, poursuivez
Dans ce
comme
que je...
ça. J'ai un lien, mais poursuivez, ça, j'aurai un lien plus tard.
Non, 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 allez-y, on a le temps.
C'est parce que justement, ça faisait le lien avec la tribune intéressante de Pierre Birenbaum,
Oui.
qui a travaillé sur l'antisémitisme. Donc, j'avais surtout sur cette fameuse année 1898, le moment antisémite là, qui raconte où c'était vraiment des moments au moment de c'est au moment où Zola avait fait paraître J'accuse et ça avait déchaîné des mouvements de centaines de milliers de personnes qui créaient des morts aux juifs dans les rues de Paris avec des émeutes. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Voilà où il notait aussi que c'était essentiellement l'extrême droite, même s'il pouvait y avoir quelques blanquistes et quelques personnes aussi extrême gauche qui ont pu y participer. Même si c'était extrêmement majoritairement de l'extrême droite nationaliste et
Oui,
catholique.
la gauche a choisi son camp en ce moment-là. Il y avait eu effectivement avant de ce qu'on appelait le socialisme des imbéciles, c'est-à-dire utiliser les juifs comme symbole de la haute banque et du capitalisme. Mais après un moment de flottement, au début, la gauche tout entière s'est retrouvée pour défendre l'honneur et l'innocence du capitaine Dreyfus. Mais ce qui est intéressant, c'est Pierre Birnbaum, hein, c'est pas Pierre Birnbaum, Pierre Birnbaum a écrit une tribune qui est vraiment intéressante, vous avez
Tout
raison,
à fait.
dans Le Monde du 1er et de 2 novembre. Et là, en dehors du fait de tous les travaux qu'il a fait avant, il s'attachait plus particulièrement à commenter la phrase de Jean-Luc Mélenchon à propos de la manif pro-palestinienne du 22 octobre. Je vous le cite quand même, parce que ça vaut la peine ce
Oui,
qu'avait dit
allez-y.
Jean-Luc Mélenchon. Voici la France. Pendant ce temps, c'était la manif pro-palestinienne. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Et ça, c'était une manière assez peu sympathique de stigmatiser Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, en utilisant ce terme. D'abord, l'idée que le peuple, qu'elle ne faisait pas partie de la France, c'est ça que ça veut dire, puisque voici la France, celle qui manifeste aux côtés pour la défense des Palestiniens, elle qui est allée à Tel Aviv tout de suite après le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas, elle ne fait pas partie de la France. Et en même temps, il utilise ce terme, nous dit Pierre Birnbaum, qui est celui de camper. Elle campe à Tel Aviv. Et lui, il voit moins une allusion au camp de concentration, il y voit plutôt ce vieux mythe du juif errant. Et ce terme qui a toujours été employé, main d'Est, qui campe entre Atlantique et Pyrénées, ça a été dit à propos de Pierre Mendès-France, disaient les royalistes. L'idée que ce sont la race juive ne peut vivre, Drumont, je vous le cite, la race juive ne peut vivre dans aucune société organisée, c'est une race de nomades et de bédouins. Quand elle a installé quelque part son campement, elle détruit tout autour d'elle. Donc en faisant ça, consciemment ou inconsciemment, il exclut Madame Braun-Pivet du peuple de France et il la met du côté des juifs errants et des nomades. C'est des vieux stéréotypes antisémites qu'il remet à l'ordre du jour. Et ce n'est vraiment pas bien, quand on est un homme politique, de faire ce genre d'allusion. Le problème n'est pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon est antisémite ou non. Je n'en sais rien et d'une certaine manière, je m'en fiche. Mais quand on est à la tête d'un mouvement politique, on fait attention à ce qu'on dit. Et là, je serais d'accord avec Madame Braun-Pivet, c'est une nouvelle cible que l'on me met dans le dos.
Oui, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait, c'est pas ça excuse pas
Absolument,
ce
on peut
genre de
être d'accord ou
commentaire.
pas d'accord, mais on
Voilà.
discute calmement. Mais on ne sort pas ce genre de choses, parce que, comme on le disait en commençant, il y a un réservoir inépuisable d'argumentaires, de tropes, comme vous dites, de rhétorique anti-juive. Et elles sont prêtes à se rallumer à tout instant. Donc on ne joue pas avec le feu. Surtout dans le contexte émotionnel qui a suivi les événements du 7 octobre. D'abord l'attaque perpétrée par le Hamas et ensuite les bombardements, la riposte israélienne à Gaza qui fait chaque jour plus de victimes civiles. Donc on est dans un contexte extraordinairement émotionnel et ce n'est pas avec ce genre de phrases qu'on va trouver des solutions.
Tout à fait. Eh bien, on va faire la deuxième pause musicale avant d'aller à notre conclusion.
You can't hang around me.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. On écoute toujours la chanteuse Anne Peebles et le titre du morceau c'est Trouble, Heartache and Sadness. Eh bien, on va finir notre entretien avec Nona Mayer, donc on va parler toujours de cette question de l'antisémitisme. Et c'était juste pour rappeler que notre entretien précédent, on avait reçu. Alain Policard, avec qui vous aviez dirigé l'ouvrage Les mots qui fâchent, avec lui et Philippe Corcuff, vous avez rédigé un livre qui s'appelle Les mots qui fâchent aux éditions de l'Aube, qui va d'ailleurs ressortir en janvier, nous a dit Alain Policard, là, tout bientôt. Et, exactement. Et donc, on avait un peu abordé ces questions-là, mais on avait aussi abordé, surtout donc, par rapport au conflit israélo-palestinien et par rapport donc, à ce que ça pouvait charrier, par rapport à ce que certaines formes, donc l'antisémitisme, pouvait advenir. Et, mais ce qu'on avait peut-être oublié de parler, de ce qu'il y a. Peut-être derrière cela, il y avait des personnes qui utilisaient beaucoup les réseaux sociaux. Bon, heureusement, ils sont beaucoup moins puissants qu'ils ont pu l'être à un instant, mais c'était toute une galaxie autour d'Alain Soral et de Dieudonné, qui était pendant il y a plus d'une dizaine d'années les grands vecteurs et un des plus grands vecteurs donc de l'antisémitisme en France, hein, qui ont essayé un peu d'aller de tous les côtés à la fois du côté, parce que Alain Soral venait de l'extrême droite et du Front National, elle a même formé des cadres du FN de maintenant. Hein. Mais oui. Voilà aussi, avec Dieudonné, ils ont essayé de toucher un public un peu, on va dire, en France, trop des quartiers populaires, avec le discours comme quoi la mémoire de la Shoah, elle empêcherait de parler de la mémoire de l'esclavage, enfin, des choses comme ça qui sont fausses, mais qui sont aussi charriées sur une sorte de concurrence victimaire, comme quoi il y aurait un lobby juif. Et il y avait cet épisode assez effroyable qui était en 2014, qui s'appelait Jour de colère, où il y avait tous un peu ces réseaux, hein, l'extrême droite radicale, avec le, ça criait aussi mort aux juifs dans les rues de Paris, avec l'extrême droite radicale, les réseaux autour de Alain Soral, Dieudonné et tout ça. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 10 ans, mais c'était quand même quelque chose de assez violent quand même d'entendre crier mort aux juifs dans les rues de Paris, parce que c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'était pas insignifiant. Et c'est aussi quelque part pour relativiser les thèses assez en vogue de Pierre-Alain Taguieff, qui parle d'un nouvel antisémitisme qui serait strictement arabo-musulman. Ben, on voit que ça vient aussi beaucoup de l'extrême droite, et que même s'il peut y avoir quelques formes d'extrême gauche qui se laissent aller, mais que c'est quand même une histoire qui vient quand même, Alain Soral, il vient de l'extrême droite, et puis Dieudonné avec son discours, c'est du discours conspirationniste, mais qui a quand même beaucoup à voir avec les théories d'extrême droite. Et c'est qu'on avait... vous avez sûrement travaillé là-dessus, donc je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire par rapport à tout ça. On se mélange un peu le conspirationnisme, l'antisémitisme racial, l'antijudaïsme chrétien, enfin toutes ces choses-là qui sont mélangées dans un blogi-boulga pour faire une nouvelle forme d'antisémitisme qui se diffuse aussi beaucoup sur les réseaux sociaux avec tous les discours un peu farfelus, les thèses complotistes qui effleurent. Au moment de crise, il y avait l'épisode du Covid, comme vous avez dit. À chaque fois qu'il y a des crises ou des conflits israélo-palestiniens ou d'autres, ça se redéveloppe, quoi. Donc je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, si vous avez dire peut-être quelque chose sur ces choses-là.
Ça fait beaucoup de choses. Je vais essayer de m'y retrouver un peu là-dedans. Je dirais au fond que toutes les formes de racisme depuis la Seconde Guerre mondiale dans les démocraties ont tendance à s'exprimer d'une manière souvent indirecte. On en parlait de racisme subtil ou symbolique, Pourquoi? Parce que depuis l'Holocauste, c'est un peu le thème du plus jamais ça. C'est l'antiracisme qui est devenu une norme dans les démocraties, même si vous allez dans les stades et vous entendez des choses qui ne sont pas vraiment tout à fait conformes à cette norme antiraciste. Mais beaucoup de personnes ont intériorisé cela, avec l'idée qu'on ne veut plus jamais que ça se reproduise. Et donc, les différentes formes de racisme ont tendance à s'exprimer parfois de manière un peu détournée. Et du coup, du genre, moi j'ai rien contre les Juifs. Mais enfin, la manière dont ils se conduisent avec les Palestiniens, ce qui est une manière, a priori, quand on regarde un peu, ça ne l'est pas, a priori, plus politiquement correcte. On dit, je ne suis pas antisémite, mais... Et c'est pareil d'ailleurs avec les musulmans. Moi, j'ai strictement rien contre les musulmans, ni contre les immigrés quand ils sont musulmans. Mais cette religion, quand même, elle n'est pas très conforme aux valeurs de la République, etc. Donc, c'est une manière de dire les choses de manière euphémisée. Et donc, ce débat autour de antisémitisme, antisionisme, il y a des gens qui vont exprimer un antisémitisme latent sous une forme plus politiquement acceptable, qui est la critique d'Israël au nom de la défense des droits des Palestiniens, la critique de cet État, la critique du sionisme et la critique de la politique d'Israël sont tout ce qui est plus légitime. On tombe dans l'antisémitisme à partir du moment où on dénie à Israël le droit d'exister. Quand vous avez des slogans dans certaines des manifestations récentes « Libérer la Palestine du Jourdain à la mer », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État d'Israël n'a pas sa place. Là, on est sorti du cadre de la critique du sionisme comme idéologie nationale et de la critique du gouvernement israélien pour prôner la destruction de cet État. Là, on est carrément dans l'antisémitisme. Alors, dans le grand public, quand vous posez des questions sur l'antisionisme, vous avez 43% de gens qui ne savent pas ce que c'est. Hein. Donc, je préfère parler de anti-israélisme. Et pour revenir à Pierre-André Taguieff, il a été le premier à lancer en France, en 2002, ce débat autour de la nouvelle judéophobie. Il utilisait le mot judéophobie parce qu'il disait antisémite, c'est ambigu, ça renvoie aux sémites, et on peut dire que ceux qui parlent les langues arabes sont des langues sémites. Donc, pas de confusion, moi je dis judéophobie, il y a un nouveau phénomène planétaire qui est la critique des juifs en tant que juifs et uniquement des juifs, et qui s'avance masqué, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, derrière la critique d'Israël au nom des valeurs anti-impérialistes, de défense des droits des Palestiniens et de défense des peuples opprimés. Et donc là, il faut aller regarder au cas par cas. Il y a des cas où c'est effectivement une défense des peuples opprimés, mais un cas où c'est un masque à l'antisémitisme, et ça dépend de ce que vous avez au bout. Hein. Tant que c'est de la critique normale, si vous allez en Israël ou si vous lisez un journal de gauche qui s'appelle le Haaretz, vous trouverez des sacrées critiques de la politique israélienne et de la politique de M. Bibi Netanyahu. Hein. Donc, ce n'est pas la critique qui est condamnable. C'est à partir du moment où vous essentialisez un peuple, vous dites Israël à la place du gouvernement israélien ou à la place de l'armée israélienne, et vous regardez chaque juif de France comme s'il était le porte-parole des Israéliens. À partir du moment où vous êtes sur cette ligne-là, alors vous êtes parti de la critique légitime d'Israël, voire du sionisme, pour glisser vers l'antisémitisme sous ses formes parfois dangereuses. Par ailleurs, il y a un autre élément qu'il faut avoir en ligne de compte, parce que nous avons des lois qui répriment l'antisémitisme. Certains trouvent plus habile de dire, au lieu de dire sale juif, on va dire sale sioniste. Et donc, il faut au cas par cas aller regarder dans quel contexte se trouve la formule. Voilà une couche de complexité supplémentaire à l'étude de l'antisémitisme, c'est cette distinction entre antisionisme et anti-israélisme et antisémitisme.
Et c'était aussi, j'ai parlé de toute la galaxie qui était donc... autour de, enfin à l'époque c'était Alain Soral et Dieudonné, oui, mais qui avait vraiment, qui se servait de ça, mais c'était plutôt un discours qui avait pu s'avoir avec l'extrême droite qu'autre chose, et d'ailleurs qui était aussi en lien avec deux très proches de de Marine Le Pen que sont Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, les
Oui, c'est Bidard, oui.
anciens militants du GUD, groupe Union
Oui.
Défense, tout à fait, et qui participaient aussi à ce qu'on appelle le collectif Cheikh Yassine, qui est proche des islamistes, islamistes assez radicaux, qui se disent antisionistes. Comme il y a des petites galaxies, enfin voilà, c'est pour dire un peu que ce. Voilà, il y a des
Oui.
gens d'extrême droite qui affirment encore ces positions, qui sont dans l'entourage proche de Marine Le Pen,
De
d'ailleurs.
Marine Le Pen, oui. Mais c'est compliqué l'antisionisme. Vous avez des juifs religieux qui sont antisionistes,
Voilà.
parce qu'ils considèrent que l'existence même de l'État d'Israël est illégitime. Donc, que l'État d'Israël n'est pas de ce monde des vivants. Donc c'est une notion complexe et qui peut être utilisée par des tas de gens. Mais sinon, vous avez raison. Dieudonné et Soral, à un moment, ont vraiment été les propagateurs actifs d'un antisémitisme que certains ont qualifié de récréatif. Ça n'avait l'air de rien. C'était des blagues, c'était des spectacles qui faisaient rire. Et à travers cela, ils allaient faire passer les plus vieux poncifs de l'antisémitisme, ceux des lobbies, ceux du pouvoir, ceux de l'argent. Et effectivement, vous avez raison de citer Jour de colère. C'était 2014, c'était janvier 2014. Juste après qu'aient été censurés les spectacles de Dieudonné pour antisémitisme, il y a une partie de l'extrême droite qui était, et pas seulement de l'extrême droite, qui était furieuse et disait, vous voyez, les Juifs ont du pouvoir, ils arrivent à faire censurer Dieudonné. Mais la manif jour de colère, pardon, a été vraiment un moment, un tournant, parce que c'est vrai que c'était quasiment la première fois depuis les années 30 qu'on entendait ces cris de mort aux Juifs dans la rue. Et là, du coup, Pierre Birnbaum a écrit un très bon livre, sous le coup de l'émotion, après avoir vu ce qui s'était passé, avec une manif très hétéroclite, où vous aviez à la fois les supporters de Soral et Dieudonné, des catholiques intégristes, des gens qui protestaient contre la politique du gouvernement, et la bonne vieille extrême droite, nationaliste française. Donc, tout cela pour dire qu'il faut être attentif et on a revu quelque chose du même genre dans certaines des manifestations anti-passe et anti-vax avec les pancartes, avec juste un point d'interrogation, qui? C'est comme dans les années 30, hein, je veux dire. Les Juifs, toujours les Juifs. Et même dans certaines manifestations des Gilets jaunes, on a pu voir quelques pancartes à la marge, parce qu'en soi, ce n'est pas du tout un mouvement antisémite, mais dans l'effervescence de ce genre de manifestations, peuvent ressurgir facilement les slogans antisémites et complotistes.
Voilà. Et pour finir, il y a un sociologue qui s'appelle Memphis Kirkberg qui travaille sur la sociologie des controverses comparées entre gauche et enfin, sur la gauche et l'antisémitisme en France et en Allemagne. Et il dit que le problème de certaines gauches, c'est pas tant la non-reconnaissance du caractère antisémite de certains actes, comme l'école Ozar HaTorah avec Mohamed Merah ou le meurtre de Milad Halimi, etc., etc., que difficulté à admettre l'antisémitisme comme fait social. Que c'est plutôt ça le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de pensées, ils ont du mal à penser la lutte contre l'antisémitisme depuis quelques années par rapport à ces faits-là qui sont
Oui.
voilà. Et donc ça c'est problématique, même si apparemment il y a des gens qui se forment Europe Écologie Les Verts avec le réseau, le RAAR, le réseau contre
Oui.
l'antisémitisme et tous les racismes, et il y a des qui travaillent là-dessus et qui font pas mal d'efforts de plusieurs formations de gauche,
Oui.
sauf malheureusement LFI.
Ben pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience. Je me souviens qu'il y avait eu un colloque au Sénat, organisé par EELV, les Verts, et là, il y avait vraiment une prise de conscience qu'il y a de l'antisémitisme à gauche, qu'il y en a toujours eu, souvent plein de bonnes intentions, hein, je veux dire, comme un mythe simplificateur, comme on disait tout à l'heure, des Rothschild et de la Haute Banque, et puis là, avec l'idée d'être légitimement du côté des opprimés, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une fraction d'antisémitisme à gauche, il est beaucoup plus élevé à droite et à l'extrême droite, mais ça remonte un peu dans certaines fractions de l'extrême gauche. Donc il est vraiment temps d'aller regarder et de faire des formations pour être plus sensible à ce qui est et ce qui n'est pas de l'antisémitisme.
Eh ben, on vous remercie pour cet entretien et on vous souhaite une bonne continuation.
Et vous de même.
Au revoir.
Au revoir.
La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.